Bonjour, c'est François Langlais. Bienvenue dans le podcast hebdomadaire de Langlaisco.
Bonjour à tous, c'est Catherine Mangin. Chaque semaine, je dialogue avec François sur les mutations, les évolutions qui résultent de la crise du coronavirus afin de mieux comprendre comment l'économie s'adapte au fil de la pandémie. Alors, les transports en commun dans les grandes villes pourraient ne jamais se remettre de la crise sanitaire que nous vivons actuellement, François.
C'est incroyable, en effet, parce que voilà des années, des décennies que les villes ne cessent de grossir et avec elles, les transports en commun, bien sûr. Il y a de plus en plus de monde qui vit et qui travaille dans les villes. Voilà que ça s'inverse. La fréquentation dans les transports en commun chute sous l'effet de deux causes. Un, l'essor du télétravail qui limite, bien sûr, d'autant la demande de transport. Et puis, les transferts vers la voiture individuelle, parce que les gens ont le sentiment, probablement pas justifié d'ailleurs, mais néanmoins persistant, qu'ils risquent la contamination en étant dans les transports en commun. Les études à ce sujet sont les premières, avaient semblé montrer qu'il y avait un risque plus élevé, et les plus récentes font état exactement du même risque que dans les entreprises, c'est-à-dire un risque qui n'est pas nul, mais qui est plus faible par exemple que dans les restaurants. En France, du coup, le chiffre d'affaires de la SNCF sera amputé de 5 milliards d'euros au moins en 2020. En ce moment, seul un train sur quatre circule pour les grandes lignes. Le réseau de banlieue, ce n'est pas la même chose, la proportion est plus importante. Et les systèmes de transport locaux, celui de la RATP à Paris par exemple, catastrophe également, la RATP devrait perdre plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires. Évidemment, ça va nécessiter pour la RATP et pour la SNCF des aides de l'État, très importantes, recapitalisation probablement, et puis des régions concernées, celle de l'Île-de-France en particulier, qui est très mobilisée sur le financement des transports. Dans les régions françaises, on parle d'un chiffre de 1,5 milliard de recettes en moins. C'est pas seulement à Paris, hein, c'est pas seulement en France. À New York, selon le Financial Times, l'autorité de transport subit un trou de 12 milliards de dollars, c'est presque autant qu'en euros. Les lignes les plus fréquentées tournent au quart de leur capacité. En moyenne, la fréquentation du métro est à 60% avant l'épidémie. Donc c'est un vrai crack. Et dans certaines banlieues de Chicago, c'est bien pire. C'est 90% des commuters, c'est-à-dire des banlieusards, qui ont disparu. À Londres, on vient de se mettre d'accord sur un plan de sauvetage financier de 2 milliards d'euros pour le MTR, le système de transport de masse, justement. Singapour, même problème. Et partout, la même question. Et si jamais les passagers ne revenaient pas?
Mais alors, ça veut dire que la voiture qui était si décriée, hein, puisque c'était quand même un peu le modèle à abattre, a repris aujourd'hui du poil de la bête, que c'est un moyen de transport légitime?
C'est incontestable. C'est vrai que un sondage est paru tout récemment. À la rentrée en France, selon ce sondage qui émane de la société Alphabet, qui loue des voitures, elle est un peu intéressée au résultat, mais 76% des actifs utilisaient une voiture pour leur trajet domicile-travail, et c'est 4 points de plus qu'avant la crise. Évidemment, quand on regarde dans le détail entre Paris et province, on n'a pas les mêmes chiffres pour des raisons évidentes. À Paris, il y a beaucoup d'embouteillages, il y en a moins en province. En région, la voiture est toujours majoritaire, mais avec un chiffre beaucoup plus faible qu'à Paris et qu'au plan national, puisqu'elle ne concerne que 52% des trajets domicile-travail, 48% étant pour le transport en commun de la région Île-de-France.
Alors François, la grande question, c'est évidemment de savoir si lorsque l'épidémie sera terminée, les habitudes reviendront.
C'est pas sûr. Il se peut qu'il y ait des évolutions structurelles. Il est évidemment trop tôt pour le dire, mais on les voit poindre. Une étude faite par CBRE, à nouveau citée par le Financial Times tout récemment, dans 18 pays sur 10 000 personnes, fait état du fait que 85% des employés souhaitent télétravailler au moins 2 jours par semaine. Alors ça voudrait dire, pour eux, une réduction de leur demande de transport collectif de 40%, c'est énorme. Hein. Et donc ça c'est pour, j'allais dire, le volet salarié, mais côté entreprise, ça change aussi beaucoup. Les entreprises s'organisent quand on voit la révolution qui est à l'œuvre chez PSA, le grand constructeur automobile, Peugeot Citroën, qui a aujourd'hui plus de 400 adresses dans le monde et qui envisage de rationaliser tout ça sous l'effet du télétravail, à la fois pour permettre aux salariés de travailler chez eux lorsqu'ils le peuvent et pour faire des économies. Il y aurait 200 millions d'euros par an d'économies possibles. En fait, derrière tout ça, on voit que ce sont les villes qui pourraient changer, hein, et évidemment les quartiers d'affaires comme la Défense, et que les systèmes de transport en commun qui avaient jusqu'ici suivi leur évolution positive pourraient être amenés à abattre la voile pour suivre leur évolution négative. À Paris, un déménageur disait récemment que 90% de son travail, c'était des Parisiens du centre qui s'exilaient, qui quittaient la ville, sous l'effet à la fois de la contrainte de l'épidémie et puis des difficultés croissantes de circulation. Alors ça n'a pas de valeur statistique, mais c'est probablement un signal faible qui montre que effectivement les habitudes et la façon dont on voit les villes est en train de changer.
Et donc face à cela, que peuvent faire les opérateurs traditionnels de transport, François, c'est-à-dire la SNCF dont vous avez parlé, la RATP, les opérateurs de transport en commun en province ?
En fait, ça les place devant une alternative qui est pas facile. C'est soit réduire le service structurellement, en prenant le risque de décourager encore les clients davantage, parce que ça veut dire que si on réduit l'offre, en principe, la demande ne s'améliore pas, soit demander de l'argent à la collectivité, le risque étant que si d'un côté ces réseaux de transport sont de moins en moins utilisés et de l'autre de plus en plus financés par l'impôt, ben les taxes pour les financer pourraient être ressenties de façon beaucoup plus dure et plus injustifié que ça n'est le cas aujourd'hui. Alors avec l'exception de la France et de l'Île-de-France singulièrement, parce que c'est une situation particulière, l'usager ne paye déjà quasiment rien hein, par rapport au coût total du transport. Un pass Navigo qui vous permet de circuler dans toute la région parisienne, quand même, avec une amplitude de plus de 100 km, ben c'est 75 euros par mois. Et encore, dans la plupart des cas, l'entreprise, l'employeur, le rembourse intégralement. Ça veut dire que virtuellement, pour les franciliens, le transport en commun est gratuit. Du point de vue de la stratégie, ces transporteurs en commun pensent à développer de nouveaux modes de tarification. On voit cette idée poindre dans différents coins du monde pour exploiter, profiter de la nouvelle liberté horaire des télétravailleurs en proposant des tarifs plus faibles dans les heures creuses. L'idée, ça serait de proposer un meilleur service à tout moment de la journée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sait, enfin, j'allais dire aujourd'hui, c'est plus aujourd'hui, mais avant l'épidémie, on savait qu'à 6h du soir ou à 7h du soir, le transport était très inconfortable. Si on pouvait répartir le trafic, ça permettrait de proposer un service de qualité plus constante. Alors c'est vrai qu'en région parisienne, c'est une nouvelle exception. L'offre va se développer aussi dans les années qui viennent de façon importante dans le cadre du Grand Paris. Il va y avoir le prolongement de la ligne 14, le prolongement de la ligne 15 des deux côtés, hein, et puis la création de nouvelles lignes, les 16, 17, 18, avec des investissements qui sont énormes. Bon. Il faut espérer que d'ici là, on soit tous majeurs et vaccinés au moins.
Et en attendant, la RATP réfléchit à une meilleure utilisation de ses équipements. Hein. Par exemple, les centres-bus, qui occupent beaucoup d'espace hein, dans la capitale, pourraient servir dans la journée de plateforme colis. Puisque effectivement, quand les bus sont dehors, ben, on pourrait réceptionner les colis pour les redistribuer dans Paris.
Une voilà. Diversification intéressante.
C'est ce genre d'idée est à l'étude. Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application RTL ainsi que sur toutes vos plateformes favorites.